Voilà, le projet maintenant, si vous le voulez bien, c'est qu'après les propos généraux, nous voyons quelques exemples de différents modes d'intervention des lecteurs dans le texte, et je le ferai en distinguant différents rôles possibles. 7, pour être précis, et je précise d'ailleurs que tous les documents que vous avez vus et que vous allez voir proviennent de la bibliothèque de la Fondation Martin Bodmer à Genève. Le premier rôle, la première étape dans la mobilité du texte se situe du côté de l'auteur. Après tout, l'auteur est son premier lecteur, il travaille son œuvre, il la corrige, il la complète. Les traces de cette activité, dans l'atelier intime de l'écrivain, ces traces sont diversement conservées. Les papiers personnels, les documents préparatoires, environ jusqu'au XVIIIe siècle, sont d'ordinaire perdus. On ne les conservait pas. En revanche, dès le moment où les écrivains deviennent des figures publiques, alors la genèse des œuvres, comme les aléas biographiques, retiennent l'attention. Du coup, à partir du XVIIIe siècle, si certains auteurs négligent ou détruisent cette documentation éphémère et privée, beaucoup, en revanche, et de plus en plus, prennent soin de la transmettre à la postérité. Les Flaubert, Zola, Balzac, comme ici, dans le manuscrit d'une nouvelle, les orphelins ont laissé d'immenses dossiers de notes préalables, de projets, de brouillons, d'épreuves, souvent, comme on le voit, lourdement raturés, autant d'archives, donc, qu'exploite aujourd'hui une spécialité en pleine expansion, la critique dite génétique. Je vous présente ici les premières épreuves de la recherche du temps perdu, qui nous font assister à plusieurs transformations cruciales. Ici d'abord, vous le voyez, ça n'est pas peu de choses, celle du titre. Les intermittences du cœur, qui était le premier projet, font place à la recherche du temps perdu. Il en découle pour Proust que le premier sous-titre, le temps perdu, doit être remplacé, et ce sera d'abord Charles Swann qu'il biffe, et puis qu'il remplace par Du côté de chez Swann. Et c'est pas fini. La légendaire première phrase du roman, elle aussi, change dans ses épreuves. Longtemps je me suis couché, le bonheur a été biffé. Proust, comme vous le voyez, a essayé pendant bien des années, chaque soir, quand je venais de me coucher, je lisais quelques pages d'un qu'il a biffé à son tour pour rétablir la formule originale. Proust ne fait pas seulement que corriger, il remanie en profondeur son texte et il le gonfle. Et quand les marges des épreuves ne suffisent pas, eh bien, il colle et parfois plie ce qu'il appelait ses paperolles. Elles se multiplient dans les épreuves. Vous imaginez que le travail des imprimeurs de Grasset, où apparut la première édition après Refus chez Gallimard, que le travail des imprimeurs a été accablant. Et on ne s'étonne pas que le livre, lorsqu'il paraît enfin en 1913, après 5 jeux d'épreuves, ait été plein de fautes d'impression. Pour passer à un autre exemple, voici Schopenhauer, qui publie en 1819 la première édition de ce qui sera l'œuvre de sa vie, Die Welt als Wille und Vorstellung. Schopenhauer, qui conçoit alors l'idée fondamentale qu'il ne fera jusqu'à sa mort en 1860 que développer et approfondir. Et alors, que fait-il? Eh bien, il consigne ses compléments dans des carnets, d'une part, et aussi dans ses propres exemplaires du livre. Et vous avez devant vous la première édition qu'il a fait interfolier afin de noter sur les pages blanches les adjonctions destinées à l'édition suivante, deuxième édition, qui paraîtra 25 ans plus tard, en 1844. Et il ne fera que répéter la même opération, le même procédé, dans les éditions qui suivront. Je passe à mon deuxième rôle. Le deuxième acteur dans les avatars du texte, c'est ici le commentateur, qui, surtout dans les éditions des classiques, explique, glose, interprète. C'est ce que font aujourd'hui les manuels scolaires et ce qu'ont fait pendant deux millénaires les commentateurs qui ont joué, c'est bien connu, qui ont joué dans la transmission du savoir dès l'Antiquité un rôle majeur, puisque la médecine, le droit, la théologie, la philosophie se sont constitués au fil des siècles dans les marges des grands maîtres du passé et par les commentaires des commentaires. D'Hippocrate à Galien, de Galien à Vésale, c'est le même savoir de base qui se transforme et accouche progressivement d'une science nouvelle. Lisez la Bible, lisez Aristote ou Ovide, sans explication, ou avec, dans une édition commentée, avec des notes savantes, votre perception du texte sera tout à fait différente. Qu'il s'agisse d'identifier des sources ou des textes comparables, d'expliquer des mots difficiles, d'éclaircir des allusions, de signaler peut-être des traits de style ou encore plus ambitieusement, de déployer le sens, de dégager une leçon religieuse ou morale, toutes ces médiations s'accrochent au texte premier. Elles se déployaient jadis autour de l'original, dans les marges, jusqu'entre les lignes, et plus tard, au bas des pages. Alors, voilà, quelques exemples. Vous avez ici une édition de la poésie d'Horace, Paris-Josbad, 1519, les vers latins et, en marge, différents commentaires de scoliastes antiques, ici Pseudo-Acron et Porphyrus, avec en plus une main manuscrite qui utilise le blanc des marges. Autre exemple, on pourrait évidemment les multiplier à l'infini. Voici la magnifique édition de Florence, 1481, de la Divine Comédie de Dante, accompagnée autour des vers disposés, enfin, dans une typographie plus grande, avec le commentaire de Landino, qui occupe une bonne partie de la page. Et pour changer de registre, vous avez là la Bible protestante des fameux imprimeurs hollandais, les Elsevier, Amsterdam, 1669. Une Bible qui, vous le voyez, c'est le même procédé que tout à l'heure, véhicule un immense travail d'exégèse en tout petit caractère. C'est la police spéciale qu'avaient créée à cette fin les Elsevier, avec une masse de gloses, des gloses qui, philologiques, historiques, théologiques, devraient assurer la juste compréhension de l'écriture. Il y a là quelque chose d'assez différent, mais du même ordre. Le dictionnaire historique et critique de Pierre Bell, dans l'édition ici de Bâle 1738, me paraît l'exemple parfait de cette lecture envahissante. Avec une différence importante, il est vrai, par rapport à tout à l'heure, c'est que c'est ici l'auteur qui lui-même fournit les gloses. Nous sommes ici dans l'article Adam. Vous le voyez, le texte principal en haut, 5 lignes, flotte au-dessus d'un océan de notes où le lecteur va devoir frayer son chemin. Un ensemble compact, en petits caractères, qui est réparti en deux colonnes. Vous avez des appels de notes, qui sont des lettres majuscules entre parenthèses, dans la partie supérieure, pour renvoyer à telle ou telle note. Mais ce n'est pas fini, parce que chacun des deux niveaux possède à son tour son propre système de notes, cette fois marginal, auquel conduisent en haut une lettre minuscule et plus bas un chiffre, toujours entre parenthèses. Donc une disposition complexe, hiérarchisée, emboîtée, qui entraîne le lecteur dans une circulation difficile, jalonnée de carrefours, où il doit choisir son chemin. Est-ce que, quand je tombe sur un appel de notes, ici et ailleurs, bien sûr, est-ce que je vais continuer tout droit ou bifurquer à un étage supérieur ou à un étage inférieur ou vers la marge pour lire quelque chose d'un autre niveau? Une démarche qui, vous le voyez, est comparable à celle des pages web. Même espace divisé en fenêtres, même étagement d'hypertexte, même liberté d'un navigateur qui organise librement son parcours. Après l'éditeur scientifique que je viens de vous présenter, l'éditeur commercial maintenant, c'est mon troisième rôle, qui lui fabrique un livre, c'est-à-dire crée un objet dont tous les aspects sont porteurs de sens. Le choix de la couverture et du papier, la typographie, la mise en page, le format, tous ces paramètres fonctionnent comme des signes et procèdent d'un lecteur ou d'une équipe de lecteurs de la maison d'édition qui donnent du texte leur propre version, y inscrivent une interprétation, laquelle oriente à son tour celle du public. C'est précisément une prodigieuse équipe éditoriale que l'imprimeur anversois Christophe Plantin met en place 1572 pour publier cette fameuse Bible polyglotte qui est un exploit à la fois savant et technique, lequel juxtapose les versions syriaques en caractère arabe, hébraïque, au bas de la page, grec, et enfin deux versions latines. Alors, l'informatique aujourd'hui permet aux auteurs et aux éditeurs, qui parfois se confondent, de créer des livres inventifs qui s'adaptent au nouveau support électronique pour communiquer différemment. Eh bien, le procédé n'est pas nouveau. Voici comment, aujourd'hui, vous lisez de Blaise Cendrars la prose du Transsibérien. C'est, disons, dans ce tirage de Poésie Gallimard, le degré zéro de l'édition, une maquette standard. Mais cela dit, pour remonter à l'origine de cette œuvre, en rupture avec le conformisme, justement, du livre standardisé, Cendrars, avec la collaboration de Sonia Delaunay, avait à l'origine fabriqué eux-mêmes, pour le poème, un étonnant dépliant, un leporello, de 2 mètres de long. Un montage dans lequel, vous le voyez, le texte se marie aux formes et aux couleurs de Sonia Delaunay, se déploie dans un espace qui doit être vu dans son ensemble, un espace où les mots, eux-mêmes colorés, sont inséparables de la polychronie et du graphisme. Comme quoi, plus que jamais ici, l'expérience de lecture entre nos deux éditions est totalement différente. Comme disait McLuhan, le médium, c'est le message. Un autre exemple, c'est ici le livre biblique d'Esther, qui a été copié dans ce que vous avez devant vous, dans sa version originale en hébreu, sur un rouleau, j'insiste, un rouleau qui date du XVe siècle. Eh bien, le choix du support, ici encore, donc dans le choix d'édition, peut surprendre, puisque au XVe siècle, depuis bien longtemps, le livre, le codex, a remplacé l'antique volumen, le rouleau. Il y a donc là un parti pris anachronique, mais chargé de sens. Je vous rappelle que le livre d'Esther raconte comment les Juifs, captifs de l'Empire persan et menacés d'extermination par le traître Haman, ont été sauvés grâce à l'habileté d'Esther et de Mardoché. Ce récit, qui symbolise la résistance et la victoire possible contre les persécutions, ce récit joue un rôle privilégié dans le rituel juif. Il est au cœur de la fête de Pourim, où on le lit à la synagogue ou à la maison, et justement dans le rituel sur un rouleau. Autrement dit, l'usage cérémoniel du rouleau d'âge en âge est une façon de renouer avec une pratique ancestrale et de perpétuer, sous la même forme, d'où le rouleau du XVe siècle, le même message. J'avance et j'en arrive maintenant, dans le catalogue des rôles qui transforment un texte, l'intervention possible du traducteur, ce qui est une évidence sans doute. Puisque passer d'une langue à une autre, ce n'est pas seulement changer de système linguistique, mais aussi de référence culturelle, donc déplacer un texte dans un environnement nouveau, perdre quelque chose et peut-être gagner autre chose. Le traducteur est lui aussi un médiateur, un interprète, qui transforme son objet et le relance sur des pistes nouvelles. Voici, 1513, Lefèvre d'Étaples, Quincuplex Psalterium, psautier centuple, qui illustre bien la mobilité des textes, même celui de la Bible, et le pouvoir du traducteur. Lefèvre d'Étaples, vous le savez, est l'un des savants qui, au début du XVIe, prépare le chemin de la Réforme en pressant l'Église, qui à leurs yeux trahit l'esprit de l'Évangile, de revenir à l'unique fondement de la religion, la parole divine. On imprime donc la Bible, on la traduit, en latin d'abord, dans les langues vulgaires ensuite, et en retournant aux sources, on découvre que le texte qui a fait foi pendant le Moyen-Âge, la Vulgate, et que défend bec et ongles l'Église catholique, contient des fautes. Les trois versions que Lefèvre confronte d'abord dans son psautier, rangé en colonne, remonte toutes à saint Jérôme. Psalterium Gallicum, à gauche, c'est-à-dire le texte de la Vulgate, d'abord diffusé en Gaule, puis adopté par toute la chrétienté. Psalterium Romanum, rédigé à Rome ou à l'usage de l'Église romaine. Psalterium Hébraicum, ensuite, traduit de l'hébreu, donc selon Lefèvre, plus fiable. Dans la seconde partie du livre, vous avez encore ces deux colonnes dans lesquelles nous avons deux autres versions encore de que donne Lefèvre. Psalterium Vetus, traduction antérieure à celle de saint Jérôme, et Psalterium Conciliatum, version établie par Lefèvre lui-même, qui retient le texte le plus probable, corrigeant en général le Psalterium Gallicum par l'hébraïque. Donc vous le voyez, un travail de philologue, d'ailleurs tout à fait comparable à celui d'Erasme dans sa fameuse édition du Novum Testamentum trois ans plus tard, en 16, qui a l'effet d'une bombe. Il démontre que le texte de la Vulgate n'est pas un, qu'il varie et peut-être se tromper, que donc la base doctrinale sur laquelle repose la foi n'est pas sûre. Bref, qu'il faut revoir les textes canoniques, remonter aux sources, refonder les bases de la religion. Relu et corrigé, la Bible bouge et l'Église, quelques années plus tard, va se déchirer la réforme. Rôle suivant, l'illustrateur, qui à sa façon change de langue en donnant sa propre version du texte. Alors il peut tenter de mettre en image fidèlement ce qu'il lit, mais déjà, il choisit, il isole une séquence, il imprime son style à la représentation. Qu'il le veuille ou non, il ajoute, retranche, apporte des inflexions nouvelles, si bien qu'au discours des mots, il superpose l'illustrateur son propre récit. Chacun en a fait l'expérience. Le pouvoir des images est si impérieux que les illustrations influencent profondément la lecture d'un texte et le souvenir qu'on en garde. Le dessinateur qui illustre au début du XVIIe siècle l'histoire d'une exploration dans l'Arctique utilise le pouvoir affectif et mémoriel des images pour mettre en évidence ce qu'il y a ici de sensationnel ou d'effroyable dans l'aventure du Grand Nord pour les navigateurs hollandais qui, par l'océan Arctique, puis le long des côtes de la Sibérie, cherchent alors le passage du nord-est vers la Chine. Le récit de cette exploration est inclus dans la fameuse série des relations des grandes découvertes par la dynastie des imprimeurs Debrie, installée à Francfort, fin XVIe, tout début du XVIIe siècle. Des textes qui, vous le voyez, sont superbement illustrés, des textes dont les images, surtout celles d'Amérique qui vont suivre, ont durablement influencé la représentation du Nouveau Monde dans les siècles suivants. Je passe maintenant à Delacroix. Delacroix, illustrateur du Faust de Goethe, illustrations qui paraîtront dans la traduction d'Albert Stapfer en 1827. Un bon exemple d'une illustration qui est aussi une interprétation. Car Delacroix livre une vision très personnelle du texte, sombre, violente, démoniaque, une quintessence, si vous voulez, de fantasmagorie romantique. Comme on le voit ici, c'est le frontispice, le personnage principal de la pièce pour lui, ce n'est pas Faust, mais c'est Méphistophélès. Nous avons ici une version préliminaire au Lavis, auquel il prête, dans sa forme humaine ou diabolique, une allure terrifiante. Delacroix insiste aussi, plus tard dans son illustration, sur les scènes effroyables, comme ce sabbat de lémure et autres démons, où Faust voit arriver sa bien-aimée Marguerite, où cette chevauchée cauchemardesque de Faust et Méphisto dans la nuit du sabbat. Les clairs obscurs créent une atmosphère de mystère, de surnaturel, qui oriente avec force la lecture de la pièce. Alors, beaucoup d'ailleurs à l'époque, autour des années 30, se sont offusqués de ces planches, leur accent placé sur la laideur, sur la peur. Mais on sait que Goethe lui-même a volé au secours de Delacroix de manière à sanctionner cette lecture-là. Mon trajet continue lorsqu'il arrive entre les mains maintenant d'un lecteur qui la note, l'absorbe dans son espace personnel et y inscrit des traces de son passage. Alors c'est bien connu, soulignement, biffure, marque d'approbation ou d'indignation, tout cela et davantage peut envahir les blancs de la page, de même que des éclaircissements que le lecteur apporte à soi-même pour outiller sa lecture. Les exemples les plus spectaculaires, ce sont les annotations des textes classiques, que ce soit un maître, par exemple, qui prépare sa leçon, ou un élève qui note en marge du texte les explications qu'il a reçues en classe. Vous avez là, par exemple, un manuscrit français du XIIIe siècle qui regroupe les traités d'histoire naturelle d'Aristote en traduction latine. Ces textes, l'Aristote scientifique, jouaient un rôle majeur dans l'enseignement universitaire, si bien que les notes personnelles, donc des notes de cours, abondent, que ce soit dans les marges ou entre les lignes, et d'ailleurs on peut penser que les blancs généreux laissés par le copiste dans cet exemplaire servaient précisément à cela. Voici maintenant un parchemin du Xe siècle qui rassemble quatre traités de rhétorique, dont un de Cicéron. Cet exemplaire n'est pas n'importe lequel, il a appartenu à Pétrarque, qui y a laissé quelques notes que vous avez là dans les marges, autographes de Pétrarque, à quoi, dans l'histoire de ce même volume, s'ajoute un autre usager qui est passé par là. Vous voyez, c'est une souris qui a dévoré une partie de la page et nous rappelle que les rongeurs, autant que l'eau et le feu, sont sans doute les pires essentiels, les ennemis les pires du livre. Alors, puisque les accidents appartiennent au devenir du livre, je vous en présente un autre. Vous avez là une page d'un traité d'Isaac Newton, le fameux et très difficile Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, et cela dans une édition qui a appartenu, qui a été annotée par Leibniz. La rivalité est palpable, Leibniz sans doute admire, mais il cherche des fautes, critique, objecte, refait les calculs, et en plus, comme souvent il lit le soir dans son lit pour avoir chaud, et en fumant la pipe, il laisse sur quelques pages les trous de braise, dont vous avez une trace en haut à gauche, c'est le tabac qui est tombé sur le papier. Comme quoi, vous le voyez, et je généralise un petit peu ici, la tête et la plume ne sont pas les seuls agents des métamorphoses du texte. Entrer dans la sphère des occupations quotidiennes, le livre peut devenir objet d'usage et porter la trace de toutes les manipulations possibles, des taches, des empreintes, des déchirures, en quoi le corps aussi et l'environnement domestique contribuent aux métamorphoses des œuvres. Alors qu'autrefois, bibliothécaires et bibliophiles cherchaient surtout des exemplaires propres, eh bien, les historiens du livre, aujourd'hui, se passionnent plutôt pour ce genre de traces, justement, les annotations manuscrites ou telles marques de l'usage quotidien qui témoignent de l'usage du livre comme un objet ordinaire de la vie matérielle. Les taches de café dans les livres qui ont passé sur la table de Voltaire ou de Balzac, ce genre de choses, les fleurs séchées dans les recueils de poèmes de monsieur ou madame un tel, et voilà. Et j'en arrive à mon dernier rôle. Il arrive enfin dans un registre expérimental que le lecteur soit explicitement invité à prendre une part active dans l'animation de l'ouvrage. Ça n'est donc plus seulement un discours figuré que l'on fait ici, mais une intervention au sens littéral. Lecteur, donc, invité à manipuler l'objet qu'il a entre les mains, à le transformer, le compléter, l'achever. Cela grâce à des procédés de fabrication astucieux qui font que les livres se transforment en instruments interactifs. Le bricolage peut servir à des fins didactiques, comme dans d'anciens manuels d'astronomie ou des astrolabes, des calendriers mobiles, des volvelles permettent non seulement de comprendre la mécanique céleste, mais d'effectuer au plan pratique toutes sortes de calculs et de prévisions. Vous avez devant vous l'Astronomicum Caesareum de Petrus Appianus, qui avait été l'astronome de Charles Quint, début du XVIe, un chef-d'œuvre éditorial dont les illustrations fonctionnent sur la page comme des objets à trois dimensions, avec, vous le devinez ici, des disques superposés qu'on tourne pour établir telle configuration astrale. Donc un système qui devait permettre aux lecteurs profanes de l'époque de comprendre les mouvements de la sphère céleste sans devoir recourir à des calculs complexes. Alors, l'éventail des instruments de papier est très nombreux et varié. Il n'est pas réservé au discours scientifique. Je vous donne ici cet exemple qui est du milieu du XVIIe siècle. On dispose alors d'habiles dispositifs pour faciliter la confession religieuse, et peut-être même du même coup la rédemption. Comme dans, c'est son titre, cette confession coupée, où vous voyez des languettes de papier détachables, ou non, qui peuvent être repliées, énumèrent tous les péchés possibles. Alors que fait le pénitent, son livre en main? Eh bien, il fait son choix, il repère les péchés qui le concernent et qu'il va devoir confesser. Il les rabat sur le côté du livre, tend son volume au confesseur pour avouer ainsi tacitement ses fautes sans devoir ouvrir la bouche. Toujours dans l'idée qu'un livre doit être complété et animé par le lecteur, alors vous avez toutes sortes d'inventions ludiques, souvent destinées aux enfants, comme dans ce bel album de Keith Haring, l'artiste pop new-yorkais, Le grand livre des petites choses, en traduction française, qu'il a offert à une petite fille pour qu'elle joue avec. Et dans ce même registre, et pour finir, je vous montre quelques livres-objets de Michel Butor, qui associe des bribes d'écriture sur d'étranges supports à toute espèce de forme et de matière. On les déplie, on les ouvre, on les touche, on joue avec, comme pour soustraire la lecture à l'empire exclusif des mots et en faire une activité globale, intellectuelle et sensuelle, plastique, insolite, synesthésique. Livre d'artiste, livre d'enfant mobilise donc différentes facultés, différents gestes, et chacun à sa manière font de la lecture un acte de création. Je conclue en disant que, après d'avoir énuméré ces différents rôles possibles du lecteur, que par gain de clarté j'ai distingué, vous doutez bien qu'évidemment, il va de soi que plusieurs interventions peuvent s'accumuler, comme en palimpseste, dans l'histoire d'un même texte, au fur et à mesure de son progrès du manuscrit à l'imprimé, en passant entre les mains de différents acteurs possibles, éditeurs savants et éditeurs commerciaux, peut-être un traducteur, un illustrateur, un lecteur qui annote son exemplaire, etc. Une fois lancé dans l'espace public, l'œuvre commence donc une histoire imprévisible entre les mains de lecteurs qui se l'approprient et y débusquent des valeurs nouvelles. Suivre un texte en aval, à travers ses avatars, ses rebondissements, c'est peut-être risquer l'anachronisme, mais c'est aussi rendre hommage à la créativité de l'œuvre, montrer comment, ranimée par ses lecteurs, elle vit, parle encore, éclaire le passé, tout en se projetant dans l'avenir. J'ai tenté de rassembler quelques épisodes significatifs, quelques traces visibles, concrètes et sensuelles de cette histoire, une histoire qui a duré et durera aussi longtemps qu'il y aura des textes à lire.